VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Crise en Gambie, le secrétaire général des Nations Unies condamne l'occupation du siège de la commission électorale gambienne par les forces de sécurité hier, au moment même où quatre chefs d'État d'Afrique de l'Ouest s'apprêtaient à arriver à Banjul pour tenter de trouver une solution à la crise. La délégation ouest-africaine est repartie sans parvenir à un accord sur le départ du président gambien Yahya Jammeh, qui refuse de reconnaître sa défaite face au leader d'opposition Adama Barrow aux récentes présidentielles. Abdourahmane Dia.
Il faudra encore attendre pour voir la Gambie trouver une solution au statu quo né du revirement de Yahya Jammeh. Les quatre chefs d'État libériens, sierra-léonais, ghanéens et nigériens sont repartis sans donner d'informations claires sur la suite du processus. La libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui dirigeait la délégation, a tout simplement dit à la presse qu'il fallait plus qu'une journée pour trouver une solution. Le parti du président gambien a lui entamé la bataille judiciaire en déposant un recours devant la Cour suprême. Le seul problème est que cette cour n'est pas au complet car en ce moment, elle n'est constituée que d'un seul juge venu du Nigeria. L'ordre des avocats gambiens estime que cette cour ne peut pas statuer et demande à Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite. Mais rien n'indique que ce sera fait. Hier, les forces de sécurité ont investi le siège de la commission électorale et son président, Aliomoma Ndiaye, a été empêché d'accéder à son bureau. Il s'est par la suite dit inquiet pour sa sécurité, un acte que le secrétaire général de l'ONU considère comme un acte de défiance envers la communauté internationale et prévient que ceux qui seraient responsables de violations de droits humains pourraient répondre de leurs actes.
En RDC, suspension du championnat de foot à l'approche du 19 décembre, date de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Le gouvernement congolais a interrompu le championnat de football de première division par crainte de violence. Nicolas Pinault.
Oui, cette suspension est effective à partir de demain et jusqu'au 14 janvier. C'est ce qu'a expliqué à VOA Afrique le ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambayi. Il justifie cette mesure par des craintes, je cite, de violence et provocation pendant les matchs. Il dément que la mesure ait été prise en raison du contexte politique tendu à l'approche du 19 décembre en RDC. Selon M. Kambayi, il ne faut pas tout mélanger. La violence est devenue une violence à répétition. Pourtant, depuis plusieurs mois, on sait que le public de Kinshasa profite des matchs des équipes de la Lina Foot ou encore des Léopards pour entonner le chant Yebela, fais gaffe en Lingala ou encore lancer des mandats Essili, le mandat est terminé et autres slogans hostiles au président congolais. Selon Denis Kayambi, l'autorisation a été donnée à la Lina Foot pour organiser le championnat, mais il fallait assurer l'encadrement des supporters et la sécurisation des compétitions. Et bien selon M. Kayambi, depuis 2015 et malgré une campagne de civisme sportif, il constate que la violence perdure et donc, selon lui, la Lina Foot est incompétente pour gérer cette violence. Sur VOA Afrique, le ministre congolais affirme que cette suspension pourrait être étendue au-delà de janvier 2017 si la Lina Foot ne rétablit pas l'ordre dans les stades congolais.
Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé ce mercredi à la tenue d'un dialogue national ouvert à tous, y compris les opposants en exil, pour rétablir la paix 3 ans après le début de la guerre civile. Aussi longtemps que je serai président, je ne permettrai pas au pays de se désagréger, a déclaré M. Kiir devant le Parlement, en promettant de garantir la sécurité et la liberté de tous les acteurs qui participeront au dialogue national, y compris ceux qui sont actuellement hors du pays et qui sont opposés à son gouvernement. Cette annonce intervient alors que le Soudan du Sud entrera demain jeudi dans la 4e année de conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3 millions de déplacés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Centrafrique, environ 150 participants sont attendus à la première concertation sur la chefferie traditionnelle, dont les travaux s'ouvriront le vendredi 16 décembre à Bangui, en présence du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Cet événement, organisé par l'ONG Afrique Secours et Assistance, ASA, entre dans le cadre de la cohésion sociale et de la paix, basée sur la redynamisation de l'État par la base. Il découle des recommandations du forum de Bangui. L'explication d'Evelyne Adam, représentant de l'ASA en RCA, jointe par Félix Yepassi Zembo.
La tenue d'une concertation des chefs traditionnels à Bangui répond à un constat que nous avons fait, c'est que à Bangui, nous avons cherché pour la résolution de la crise en Centrafrique tous les moyens de résoudre la crise, sauf de regarder nous-mêmes dans nos traditions. Est-ce qu'il y a des réponses véritables pour résoudre les crises? Nous pensons que la réponse est oui. Il faut faire un retour aux sources, chercher dans nos sources si nous avons les moyens de pouvoir résoudre nous-mêmes nos crises. C'est ainsi que nous décidons, en tout cas, de faire la concertation nationale avec les chefs. Dans un symbole, c'est la Centrafrique. La Centrafrique, c'est le centre de l'Afrique.
Quel cadre juridique préconisez-vous pour la chefferie traditionnelle?
C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de cadre, parce que l'ordonnance qui est présente en Centrafrique, c'est une ordonnance qui est déviée, qui date depuis la colonisation. Donc ce que nous sommes en train de chercher à faire avec le ministère de l'Intérieur, c'est de voir comment est-ce qu'on peut proposer une nouvelle loi à l'Assemblée nationale qui va redynamiser justement la chefferie traditionnelle en Centrafrique.
Quel rôle la chefferie traditionnelle pourra-t-elle jouer auprès de l'autorité de l'État?
Ce que la chefferie traditionnelle faisait quand c'était le Centrafrique. La chefferie traditionnelle, les chefs étaient les garants du patrimoine. Les chefs étaient les garants de la paix. Les chefs étaient les garants du bon vivre ensemble. Et la meilleure manière de justement gérer nos villages, la meilleure manière d'inculquer à nos jeunes des notions de citoyenneté, du respect de la hiérarchie, c'est d'abord de donner ce pouvoir-là à nos chefs pour qu'au plan local, ils puissent pouvoir gérer leur localité.
Cette concertation est une grande première, c'est la toute première concertation en Centrafrique?
Oui, c'est une grande première en Centrafrique. C'est pour ça que nous sommes heureux de voir que nous avons l'appui du gouvernement centrafricain qui, avec tous les ministères, nous appuie véritablement. Nous avons l'appui aussi de certains bailleurs tels que de HR, le PNUD. C'est vraiment une grande première en Centrafrique. On espère que cela donnera les résultats escomptés.
Elle regroupera cette concertation tous les chefs traditionnels du pays, de la République centrafricaine?
Nous n'aurons pas tous les chefs traditionnels, mais nous aurons les plus représentatifs et ceux qui ont pignon sur nous. Donc nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de nous aider dans ce bilan.
Evelyne Adam, représentante de l'ONG Afrique Secours et Assistance, ASA, en RCA. Conflit en Syrie maintenant, l'accord prévoyant l'évacuation des civils de la ville d'Alep a été suspendu après les objections du régime du président Bachar al-Assad. Le point avec Nani Talani.
Le régime syrien a exprimé son désaccord sur le nombre élevé de personnes qui devaient être évacuées. Damas veut également avoir une liste de tous ceux qui vont sortir pour s'assurer qu'il n'y a aucun otage ou prisonnier pro-régime. De leur côté, les rebelles soutiennent que le régime et ses alliés, notamment iraniens, ont imposé de nouvelles conditions, donc l'accord est suspendu. Yasser al-Youssef, responsable d'un groupe rebelle, accuse le régime d'avoir voulu lier cet accord à d'autres dossiers, notamment Foua et de Kefraya, deux localités assiégées par les rebelles dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. La Turquie accuse également le régime syrien et les groupes armés qui lui sont affiliés d'empêcher la mise en œuvre du cessez-le-feu. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, l'évacuation n'a pas pu avoir lieu et la faute repose sur Damas.
Le président russe Vladimir Poutine reste l'homme le plus puissant du monde devant Donald Trump, le président élu des États-Unis et la chancelière allemande Angela Merkel, selon le classement 2016 du magazine américain Forbes, publié ce mercredi. Les détails avec Nathalie Barge.
Vladimir Poutine est à la tête du classement Forbes pour la quatrième année consécutive. Donald Trump arrive deuxième, tandis que Barack Obama dégringole de la troisième place en 2015 à la 48e position. La chancelière allemande Angela Merkel est troisième devant le président chinois Xi Jinping et le pape François. La gouverneure de la Banque centrale américaine Janet Yellen est sixième devant Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, talonné par Larry Page, dirigeant d'Alphabet, la maison mère de Google. Le premier ministre indien Narendra Modi arrive en 9e position devant Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Seulement 6 femmes figurent dans ce classement de 74 personnalités, dont la PDG d'IBM, Ginni Rometty, celle de General Motors, Mary Barra, la patronne du FMI, Christine Lagarde, et la première ministre britannique, Theresa May, qui a décroché la 13e place.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.